pour dire dans le fichier de la Banque de France de combien la personne est endettée.
Oui.
Il n'y a pas une centralisation des prix.
Oui,
par
rapport
à la Banque de France, c'est par rapport à la construction. Enfin, c'est juste bon, c'est un petit voile, ça, très gros emplois. Très gros paquet, mais ça, c'est d'accord. C'est un mauvais point de façon de savoir qui est la Banque de France. Mais pas pour M. Dupont.
Donc après, c'est juste la décision, l'État n'intervient pas. Aucun organisme étatique n'intervient.
Ma position, c'est donc la gravité quand même la loi
de surendettement.
Les fameux 30%. C'est n'importe quoi, c'est faux ça. C'est pas énorme, d'accord. C'est juste une recommandation, d'accord.
D'accord.
Donc c'est que des règles internes à
l'institution. Voilà, donc. Bon, pour revenir à vos résultats, vous semblez affirmer que l'interaction au final est soumise à ce que vous appelez une alternative, soit qu'elle professionnelle, soit qu'elle client qui pèse davantage que l'autre, qui a la main, comme vous dites. Alors bon, ça c'est lourd de compétences aussi, parce que vous proposez de dire cette interaction finalement en termes de rapport de force, implicite, vous n'utilisez pas le mot rapport de force, excusez-moi, mais sur la base en gros finalement de ressources sociales, qui s'affrontent, qui sont mis en présence au moment de cette interaction, alors là, peut-être, juste petite, comme ça, remarque, vous focalisez beaucoup sur le langage, hein, les événements langagiers, etc. Peut-être pas assez sur le rôle du corps, qu'est-ce qui se joue, puisque rapport de force, interaction sociale, etc. Qu'est-ce qui se passe au niveau des corps, au niveau pendant cette interaction, la présentation de soi, les habits, etc. Hein, tant du conseiller que du client, d'ailleurs, hein, des deux côtés. Bon, là, parce que finalement, vous nous dites que c'est un peu comme un rapport de force sur la base de des ressources sociales qui sont mises en présence, mais là, peut-être, on a peut-être un peu... vu c'est quand même lourd de conséquence de dire ça, et pour aller plus loin de loin, une question très factuelle de terrain, est-ce que vous avez observé vous-même des cas où cette alternative conduit à prendre des décisions qui sont vraiment contraires au reste de celle de l'agilité? C'est-à-dire vraiment contraire aux 33% là, du revenu, concrètement. Est-ce que vous en avez observé et comment? Et est-ce que vous avez autre petite question de terrain? Est-ce que vous avez eu des entretiens avec le conseiller ou avec le client post-interaction?
Non, ça n'a pas
été. D'accord. Pour voir comment ça a été vécu, par exemple, comment le conseiller, tout d'un coup, dans sa tête, a construit son jugement. Parce que c'est pas, hein, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer un peu de déconstruire la formation du jugement du conseiller, voire la réaction du client. Bon, c'est juste comme ça, un petit truc. Mais tout ça, mais moi qui m'a aussi peut-être le plus critique, comme on dit, hein, c'est la fenêtre que vous, et qui va me permettre une remarque plus générale là aussi, c'est la fenêtre que vous ouvrez à la fin sur les mémoires des refus de crédit. Alors soit je ne sais pas si vous avez lu, enfin si vous avez lu, mais les mémoires de refus de crédit où vous analysez a posteriori, qu'est-ce que ça a fait aux gens quand on refuse le crédit après cette interaction? Enfin, en gros c'est ça. Alors ce qui est aussi un refus de confiance, qui est vécu comme une dévaluation de sa propre valeur projetée dans le futur, ce qui ne peut qu'entraîner une certaine morbidité et une agressivité défensive, hein, donc c'est très fort, ce que vous appelez vous des formes du ressentiment. Alors moi, on voit là l'expression de véritables petits chocs narcissiques, hein, qui se produisent à ce moment-là, ce qui montre, et c'est là où ma remarque devient plus générale, autrefois, ce qui montre à quel point le crédit touche à l'intime, au moi. À un moment donné, vous faites référence à Goffman qui parle du compte chèque comme le territoire du moi. Alors le crédit aussi, suivant Goffman, et disons que le crédit, c'est sacrément le territoire du moi. À quel point il est personnel et pas impersonnel, évidemment, à quel point il n'est pas un produit comme les autres, même si on n'arrête pas de l'appeler produit aujourd'hui, c'est un peu comme les produits culturels, quoi, c'est pas des produits comme les autres, hein, pour des raisons différentes. Et donc, à partir de votre encadré mémoire des refus, je me suis dit que ces trois textes, de manière très différente, hein, et au risque de l'anachronisme évident, que ces trois textes nous faisaient voir le crédit aussi comme une sorte de drame intime et existentiel, il y a une dramaturgie un peu du crédit. Mais tout aussitôt, je tempère un peu ma remarque, parce que on s'aperçoit aussi, si on se distancie un peu, que finalement, ces trois approches, elles traitent du crédit qui se termine mal dans le cas de la prison royale, dans la poste aussi, puisqu'on empêche le crédit en faisant ressortir les risques, le côté mauvais du crédit, et dans le troisième, avec l'interaction. Avec l'interaction, c'est quand même le moment où on est, où le client est en risque, en jeu, en risque de refus social. Donc je dirais que c'est un petit peu les trois nous donnent un éclairage tout à fait différent, bien sûr, les uns des autres. Tout à fait différent, mais comment dire, c'est quand même, on va dire, le crédit malheureux, quoi, ou la mauvaise passe, ou le crédit mauvais objet pour la poste, pour le trésor, etc., etc. Alors, mais ça me fait rebondir sur une chose plus générale, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier d'étudier le crédit en aval de la décision, le jour d'après. Eh bien, il faudra aussi étudier les crédits, je dirais, émancipateurs. Hein, il ne faut pas oublier ça. L'endettement ne produisant pas nécessairement que des effets de domination, même si on se focalise toujours beaucoup là-dessus. Le crédit peut au contraire s'élargir, créer, démultiplier des possibles. Mais il ne faudrait pas, mais c'est comme ça hein, pour discuter, quoi. Il ne faudrait pas que par un malin détour, on ne recrée pas une sorte de grand partage entre les économistes qui dirait le crédit, comme je viens de le dire, démultiplie les possibles, rend indépendant, et les sociologues qui diraient, oh là là, la domination, le crédit, c'est l'endettement absolu, etc. Ce qu'il faudrait, pour éviter ce piège, parce que ça va vite, hein, pour éviter ce piège, c'est d'arriver à dépenser ensemble. C'est-à-dire que c'est le même objet. Il n'y a pas de mauvais bon. Donc bon, c'est juste comme ça, des petites intuitions de lecture, hein, au fil de la lecture. Mais au terme de ces trois lectures, toujours la pratique du crédit, comme j'ai dit, est tout sauf personnelle. Elle relève, enfin, c'est ma lecture, d'une équation intime dans laquelle, où elle oblige l'emprunteur à s'engager, mais aussi à s'exposer. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose qui traverse de manière tout à fait différente les trois. C'est une exposition. Alors, dans le premier cas, bien sûr, l'intensité de cet engagement, cette exposition se vérifie avec celui qui, en 1488, accepte d'être obligé de corps. Donc, je suis un peu déçu depuis que je sais qu'il ne reste que 48 heures en plus. Maintenant, je suis déçu parce que je voyais les jaunes de Notre-Dame de Paris. J'ai vu 108 ans que j'ai des procès. Donc là, j'ai bien déçu. Et je vous arrive maintenant, c'est un coup d'aiguille ma lecture.
Même 48 heures.
Mais bon, c'est quelque chose quand même. Bon, quand même.
Nous n'irions pas demain.
Non, lui-même, c'était obligé de corps. Donc, il s'expose. Alors là, il y a quoi de plus exposé dans la relation sociale que le corps? Bon, d'accord. Gager son corps, bien sûr, bon. Une expression. Dans le deuxième cas, dans le bureau du conseiller financier, du conseiller bancaire, celui qui accepte d'être évalué, d'être jaugé, est aussi celui qui accepte de mettre sur la table des données très intimes, les revenus, mais pas seulement, la maladie réelle, la maladie potentielle, la situation familiale, l'histoire familiale, les divorces, les pensions alimentaires, etc., 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 tout ça. Donc là, on perçoit, si vous voulez, cette dramatisation, vous voyez, au sens, cette dramatisation au moment du refus du crédit, comme vous l'avez dit, sentiment, les extraits d'entretien que vous donnez sont toujours, pas surtout, par exemple, à l'amour. Vous voyez, il y a sur 5 ou 6, il y a ces sentiments de ne pas être aimé, invocation du corps, ça, du cœur, ça m'est resté sur le cœur, dit l'un d'eux, sentiment de ne pas les aimer, il dit pas, t'es pas lui, t'es pas linguiste, je les aime pas, ils m'aiment pas, ça m'est resté sur le cœur, et qu'est-ce qu'il dit l'autre, et après l'autre, il compare à l'exclusion que provoque le racisme. C'est les 4 registres que vous citez. Donc, on sent qu'on est quand même dans une sphère extrêmement subjective, hein. Et enfin, troisième cas, plus différemment, même dans, je trouve qu'il y a une présence de l'intime, qui n'est pas complètement absente du discours doctrinaux de la poste et des rhétoriques qui sont à discuter le refus fait à cette institution de délivrer des crédits à la consommation. Derrière les arguments juridiques un peu froids, un peu, évidemment, c'est du discours institutionnel, derrière les arguments juridiques, techniques, économiques, invoqués pour justifier ce refus à la poste, on peut sentir également une certaine préoccupation par moment, puisque, encore une fois, il y a une très grande volatilité des registres de justification, hein, mais une certaine préoccupation morale, une personnalisation, par exemple lorsqu'il est question de la mission éducative de l'institution, quoi de plus intime que d'apprendre aux gens à gérer leur argent, hein, et c'est ça qu'ils disent, hein, avec une opposition implicite entre la bonne gestion de l'argent et l'endettement. Donc il y a quelque chose de paternaliste aussi, vous voyez, où on a parfois du mal à distinguer les finalités de service public de l'assistance sociale, un petit peu, hein, où il y a une tonalité paternaliste visant à protéger des individus fragiles, ceux à qui on donne 10 euros tous les jours, parce qu'ils ne peuvent pas. Donc même là, on est aussi dans une sphère de presque de fonction parentale, où tout d'un coup l'institution a intériorisé une sorte de fonction parentale qui relève aussi bon, de l'intime et du moi et de la personnalisation de la relation. Donc voilà, ça c'était sur les poids. Dernière remarque très vraiment un peu générale. Donc bien que le crédit nous présente à chaque fois un individu seul, hein, finalement, le moment de vérité, hein, alors, sauf qu'il y a des cas d'écho emprunteurs, ou d'écho déditeurs, hein, certains nombres de co-éditeurs, d'écho emprunteurs, mais sinon l'individu est quand même seul au centre de la relation de crédit. Cependant, je trouve, ce qui peut être une sorte de petit enseignement des croix, cette relation ne peut pas être pensée de manière dialogique comme ça entre deux. Il y a toujours c'est souvent une relation tiers-partie avec l'État, dans le cas de la geôle du Châtelet, et dans le cas de la Poste évidemment, puisque tout est encadré par l'État. Bon, peut-être un peu moins dans votre cas, c'est pour ça que je vous posais ces questions sur le rôle de l'État. Donc il y a ça, mais si vous voulez, je crois que ça serait dommage aussi de se poser la question de la relation de crédit comme une relation singulière entre deux, mais qui est plus, disons, une configuration relationnelle. Parce que finalement, il y a l'individu-individu, l'individu-institution privée avec la banque, l'individu-institution publique avec la poste, l'individu-État avec la royauté, institution publique entre le ministère de l'économie et le trésor. Tout ça, vous voyez, c'est pas bon aussi comme ça, hein, pour intuitif et tout ça. Mais je verrais finalement la pratique du crédit, c'est plus une configuration relationnelle, presque au sens un peu d'Elias, hein, puisque tout il y a une interdépendance et plutôt que de le restreindre, il faudrait mieux essayer de le penser comme une configuration relationnelle, en incluant tout autant les institutions, ses acteurs au même titre. Hein. Voilà, bon, c'est juste comme ça une intuition de lecture.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci. Je pense que déjà vous allez répondre voilà. Un par un et puis après on va lancer une discussion générale. Ouais. Ça ouvre plein de mots, vous avez la question.
Donc en prenant dans l'ordre, vous m'avez dit. Bon, d'abord merci pour toute la marque. Hein. Encore une fois, je ne suis pas sûre d'arriver à répondre à tout, mais loin de là. D'abord pour les arguments qui permettent, qui mettent fin à l'expérience avant, après. Alors, moi, d'abord, président, je me suis concentrée sur la fin de janvier. Donc, 1867, je sais que ça existe. Et une manière d'en parler au sujet, ça a été aussi un moment où je me suis penchée sur la littérature dite, enfin, je sais pas, que je dirais abolitionniste, hein, du 19e siècle. Puisque cette question de l'abolition de la prison pour dette a été mise au concours des académies, ça a été, comment dire, un sujet très de rhétorique pour beaucoup de penseurs du 19e siècle, de magistrats, etc. Donc on a été mis au concours à plusieurs reprises et au cours de réflexion. Donc le peu que j'ai lu, hein, parce que j'ai. Je ne suis pas penchée en détail là-dessus, il y a
une femme qui est en train de comprendre le respect, c'est
ça. Ça a été mis au concours à des concours académiques, c'est ça, donc Éric Abodo, qui est là-bas.
Fais une thèse là-dessus. Comment c'est une thèse là-dessus?
Je cherche maintenant sur le contact accord à partir de 1797 à 1867. Donc, je pourrais peut-être. Répondre à
ces questions. Oui, jusqu'au travail d'Erika, donc qui commence seulement, on n'a pas pratiquement pas de travaux autres que des choses effectivement de l'époque qui parlent du Moyen-Âge, donc des concours académiques sur est-ce que la contrainte par force c'est bien ou pas, qu'il faut l'abolir, etc. Là, ils parlent de qui croit
au Moyen-Âge. Pour les juristes, pour les
juristes.
Non, pour tout le monde. De rhétorique, on
peut dire. Ah, oui,
il y a des trucs de juristes aussi, d'ailleurs.
C'est très intéressant. Ça soit mis, justement, choisi comme tel pour.
On a plein de sujets et on a.
Mais c'était un thème qui a été.
tout qu'il y a une grande différence entre le contraint corps dans le Moyen-Âge, parce que au 19e et même au 18e siècle, je pense, le contraint corps s'agissait surtout de la lettre d'échange, de la vie à ordre, de la dette commerciale. Et donc, ce n'est pas un système de contrat, d'apprentissage, de fermage, des choses comme ça. C'est un système tout à fait différent. Et je ne sais pas où se trouve le commencement de ce grand changement de loi, mais il y a une grande différence, même dans le phénomène lui-même.
Donc cette chose est entrée dans le droit français en 1303, dans le droit royal en 1303, mais encore en 1867, les États-Unis, moi j'ai payé pour le début, donc Erika va...
Entre les deux, il y a un papier de Timothy Lockhart qui aurait bien voulu être là aujourd'hui, qui était à Paris en fait jusqu'à hier, mais donc qui est maintenant dans la mailing list du séminaire, s'il y en a qui veulent en parler avec lui, qui a fait un papier dans un collectif dirigé par Laurence Fontaine, j'ai oublié lequel, mais la référence est sur le site du séminaire, sinon vous me demandez. Qui dit un peu des choses sur le 18e, mais c'est pas... voilà.
Et en fait, il n'y a pas d'efficacité.
Sinon, il n'y a pas grand-chose.
Tu sais que ça existe, ça fait longtemps d'être, c'est pas vrai.